D'entrée peu élevée, c'est ce qu'on appelle l'immobilier fractionné. Alors Adrien Sabi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que le but de votre site est bien de donner accès à l'investissement immobilier au plus grand nombre sans avoir nécessairement une mise de départ importante ?
Oui, exactement. Alors vous l'avez parfaitement dit, l'idée de base de Blockshare, c'est vraiment de démocratiser l'investissement immobilier locatif, d'où le ticket d'entrée à 100 euros. C'est un ticket d'entrée qui permet à la fois de démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre, comme je le disais, mais aussi d'instaurer la confiance sur des nouvelles solutions qui essayent de proposer des alternatives. On le voit notamment avec le comportement de nos investisseurs qui testent la solution à partir de 100 euros et ensuite commencent à augmenter à la fois la fréquence d'investissement et à la fois le panier moyen.
Alors, la proposition est alléchante, mais sans trahir de secret, comment fonctionne votre solution ? Par quelle magie arrivez-vous à proposer des investissements avec un minimum de 100 euros, les blocs, comme vous dites, chez Blockshare, tout en étant rentable pour l'investisseur ?
Bon, alors c'est une question qu'on nous pose évidemment très souvent. Le principe est assez simple, si vous voulez. Lorsqu'on propose des projets sur notre plateforme, en fait, il va y avoir évidemment toute une composante du prix, le prix d'achat, les frais de notaire, les différents coûts liés à l'opération. Et ce montant global, c'est ce montant-là qu'on va venir fractionner, donc diviser sous forme de bloc de 100 euros. Alors, le bloc a une symbolique, si vous voulez, c'est pour venir matérialiser un droit que l'investisseur va obtenir sur les loyers et aussi sur la plus-value. Donc voilà comment fonctionne le principe.
Alors, si je suis investisseur, quels sont les éléments différenciants qui peuvent me faire passer par Blockshare plutôt que, on l'évoquait au début, par une SCPI qui a pignon sur rue depuis plusieurs années,
voire les méchantes dizaines d'années. Question, Gaëtan, là.
Alors, c'est des questions à risque, hein, Gaëtan. Effectivement, on fait souvent le parallèle de notre solution avec la SCPI. C'est une question que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que même si les SCPI amènent beaucoup de résilience et existent depuis de nombreuses années, elles ont aussi beaucoup de défauts. Vous l'avez dit tout à l'heure, le ticket d'entrée. Alors aujourd'hui, nous, notre solution, elle se démarque à trois niveaux. La première, c'est qu'on vient responsabiliser l'investisseur, c'est-à-dire qu'on redonne du pouvoir à l'investisseur qui va choisir et sélectionner réellement les actifs dans lesquels il va investir et non pas être dilué dans tout un tas d'actifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la transparence qu'on a, notamment au niveau des frais, puisqu'on ne vient pas ponctionner des frais sur le capital investi. Donc un investisseur qui investit 1000 euros, c'est bien 1000 euros qui vont réellement travailler. Nos frais sont inclus dans le total de l'opération. Et le troisième point, c'est effectivement la diversité des projets, des horizons de temps qu'on peut proposer, puisqu'on propose aujourd'hui à la fois des projets à moyen terme, donc à 5-10 ans, et à la fois, et c'est nouveau depuis 6 mois, des projets avec un horizon très court à moins de 12 mois.
Alors, nous avons regardé les projets en cours, 5 à 10% de rentabilité, c'est plutôt incroyable par les temps qui courent. Mais dites-moi, comment est-ce que vous vous rémunérez ? Car j'imagine que vous n'êtes pas philanthrope, vous indiquez que vous intégriez vos frais de gestion dans les 1000 euros que l'investisseur met sur la table. Comment ça marche ?
Alors, sur la structure des coûts qu'on va prendre, nous, on va prendre en général entre 2,5 et 5%. Pourquoi le montant variable ? Parce que, en fait, il y a certaines opérations qui sont très intéressantes, mais qui, avec des frais à 5%, du coup, n'amèneraient pas un rendement suffisant. Donc, on est assez flexible, nous, sur notre structure de frais. Donc, de 2,5 à 5%. Ensuite, au niveau des frais de gestion, et ça, c'est aussi un comparatif intéressant à faire avec les SCPI, c'est que nous avons des frais de gestion qui sont extrêmement faibles pour porter, finalement, l'opération pendant assez longtemps, puisqu'on va prendre à peine 2% de frais de gestion. Et vous l'avez dit, effectivement, on n'est pas une association. Pour que le modèle puisse tourner, il faut effectivement qu'on puisse gagner notre vie. Donc, l'équation économique fonctionne dans une certaine logique de volume et de répétition. Volume sur des projets à long terme, c'est vrai, il nous faut une base d'investisseurs de plus en plus grande pour financer ces projets-là et qu'on puisse percevoir ces frais. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'avec ce modèle à très court terme, à moins de 12 mois, étant donné qu'on déboucle une opération très rapidement, nos investisseurs ont de plus en plus confiance et redéploient très rapidement un capital. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive, si vous voulez, à s'y retrouver économiquement parlant.
Alors, finalement, quels sont les types de supports immobiliers que vous visez pour assurer la rentabilité annoncée ? Est-ce qu'il s'agit de supports particulier comme pour les SCPI, ou bien est-ce que votre panel est plus large? Parce que vous nous avez expliqué justement, vous avez des fonds sur, enfin en tout cas des biens sur des durées plus longues, et puis des biens sur moins de 12 mois. J'imagine que c'est pas forcément la même typologie de biens. Voilà, comment ça se répartit?
Alors, sur les actifs qu'on propose, nous, notre expérience et notre expertise avec mon associé, parce que ça fait plus de 12 ans qu'on investit dans l'immobilier ancien, hein, donc on est vraiment spécialisé sur ça, c'est de l'immobilier résidentiel. C'est notre thèse d'investissement, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on pratique. Nous, on a structuré nos équipes pour cette typologie de projet. Et c'est aussi ce qui est, à notre sens, le plus résilient. Donc, c'est de l'immobilier résidentiel qui est déjà rénové et très, très souvent déjà loué. Ça permet, en fait, lorsque le projet est financé, de tout de suite délivrer un rendement. Alors, on le sait, la difficulté, c'est qu'effectivement, trouver des projets qui sont déjà rénovés, déjà loués, c'est là où ça amène de la complexité pour trouver la rentabilité. Mais c'est aussi ce qui fait que, grâce à notre expérience et le réseau qu'on a pu tisser, on arrive justement à aller cibler de manière très précise ce type de projet-là. Et effectivement, sur les projets à court terme, là, c'est une autre mécanique. C'est un placement à impact qui permet de faciliter l'accession à la propriété. Donc là, il y a un mécanisme, en fait, qu'on a réussi à mettre en place au travers de partenaires. On reste sur de l'immobilier résidentiel, mais on est dans une logique de faciliter l'accession à la propriété. Mais ça reste, voilà, sur les deux thèses de l'immobilier résidentiel.
Alors là, ici, on a bien une différence avec les SCPI, parce que finalement, les SCPI investissent peu dans l'immobilier résidentiel, mais c'est plutôt sur du tertiaire, ce genre de choses.
Exactement. Et en fait, cette thèse, nous, est de plus en plus, on va dire, plébiscitée, en tout cas auprès de nos investisseurs, puisqu'on réalise une nouvelle levée de fonds, tout simplement parce qu'on est hyper cohérent avec cette logique de rénovation du parc. Alors certes, c'est pas nous qui l'opérons directement, mais on a tissé un réseau de marchands de biens à qui on est capable d'offrir une porte de sortie, et donc en finançant des projets sur notre plateforme, on accélère quelque part cette mécanique de rénovation du parc. Et vous avez raison, les SCPI sont plutôt orientés sur du bureau qui est plus stable, plus facile à opérer, là où nous, ça amène un poil plus de complexité, mais on voit qu'il y a une résilience beaucoup plus importante, notamment avec la crise que les SCPI subissent en ce moment.
Je reviens juste sur les biens à moins de 12 mois. Donc on est toujours sur des résidentiels, vous l'avez précisé. Est-ce qu'on est toujours sur des résidentiels rénovés ou au contraire c'est du résidentiel non rénové et justement vous vous lancez dans l'activité de rénovation pour revendre rapidement?
Oui, je vous remercie pour la question. Alors on reste nous sur cette thèse d'immobilier rénové. On n'opère jamais nous-mêmes la rénovation parce que c'est ce qui a fait défaut à plusieurs modèles. Imaginez lancer 50, 100 ou 200 chantiers de rénovation.
Ah non, on n'imagine pas du tout.
C'est une complexité absolue énorme, et beaucoup de modèles se sont développés sur cette thèse d'investissement-là, où nous, on confie la rénovation à des professionnels qui opèrent sur ces secteurs depuis de nombreuses années, et nous, on vient en fait quand le produit, il est fini, prêt et immédiatement rentable pour nos investisseurs. Donc on reste sur ces deux thèses, sur de l'immobilier qui est déjà rénové.
En revanche, vous le payez plus cher.
Exactement, sauf qu'on arrive à appliquer une logique de volume, on commence à arriver sur une logique de volume, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, si vous voulez, d'arriver sur des prix d'achat qui sont intéressants. On est certes moins efficient que si on opérait les travaux, il faut être honnête aussi. En revanche, on ne fait pas porter le risque des travaux à nos investisseurs, ils ont un produit qui tourne immédiatement et qui généralement est de qualité supérieure puisqu'on regarde évidemment les rénovations, la qualité des rénovations.
On est au standard du moment.
Exactement, tout à fait.
Alors, si l'investisseur souhaite pour des raisons personnelles se retirer et récupérer sa mise, est-ce que c'est possible et quelle est la liquidité des parts de biens que vous proposez?
Alors, le fameux marché secondaire que beaucoup ont essayé de mettre en place, ça c'est une question qui nous a préoccupé pendant très longtemps puisqu'on a co-construit une partie du modèle avec nos investisseurs. Alors, pour résoudre ce problème-là, ça a été justement le point de départ de cette offre à très court terme. En offrant, si vous voulez, deux horizons de temps à nos investisseurs, des projets à 5-10 ans, mais aussi des projets à moins de 12 mois, on résout quelque part ce problème de liquidité où nos investisseurs vont pouvoir panacher leurs investissements. Dans un cas sur du long terme, ils vont pouvoir avoir des revenus complémentaires pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et dans l'autre cas, ça va plutôt être de faire travailler son capital sur une durée très courte. Donc nous, ce système-là nous permet de résoudre en fait ce problème de liquidité. En revanche, il n'est pas possible pour un investisseur qui se positionne sur un projet en cours, par exemple à long terme, de récupérer sa mise initiale. Donc ça reste un peu la même logique qu'un investissement. Si vous achetez demain un appartement, vous n'allez pas chercher à le revendre immédiatement dans les 6 mois ou dans les 2 ans. Généralement, on est quand même sur un horizon assez long.
Finalement, quand on écoute tout ça, on a l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins entre les SCPI et puis le crowdfunding.
Oui, alors c'est un comparatif qu'on fait souvent, Gaëtan, vous avez raison. La différence principale, c'est qu'effectivement, contrairement au crowdfunding, on ne fait pas porter le risque des travaux à nos investisseurs, et c'est quand même très important, risque de retard, augmentation des coûts des matériaux, faillite, etc. Même si c'est un système qui fonctionne très bien, on est plutôt une solution complémentaire quelque part au crowdfunding, puisque une fois que les opérateurs, donc les marchands de biens qui utilisent le crowdfunding pour financer leurs travaux, une fois qu'ils ont réalisé l'opération et que le produit est rénové, Blockshare vient se positionner comme l'acquéreur final. Donc en fait, on travaille main dans la main avec les plateformes de crowdfunding et les SCPI. Bon, on a vu effectivement les différences avec, j'en ai pas parlé, une différence qui est assez notable, notamment au niveau des performances, puisqu'aujourd'hui, on est sur une performance moyenne de plus de 7% net, je parle, net donc de frais de gestion aussi, ce qui est largement supérieur à ce que proposent les SCPI en ce moment.
Alors, même s'il s'agit de supports immobiliers dont on détient des parts, j'imagine qu'il n'est pas possible de contracter de prêts bancaires pour investir dans des parts de Blockshare, non ?
Alors, merci aussi pour cette question. C'est là où le modèle devient extrêmement intéressant. Vous avez raison, on ne peut pas contracter directement auprès de sa banque pour acheter des blocs. J'aimerais bien, mais je pense que le banquier ne va pas forcément être tout à fait d'accord. En revanche, ce qu'il est complètement possible de faire, c'est de se dire que sur un projet à 200 000 euros, j'ouvre 50% sous forme de bloc à mes investisseurs où ils vont pouvoir financer 100 000 euros et le reste, je vais pouvoir le faire financer par la banque. Ce qui revient à dire que je vais pouvoir faire bénéficier à mes investisseurs d'un effet de levier de manière indirecte et qui en plus de ça ne va pas impacter son taux d'endettement. Et donc, si on démultiplie comme ça sur plusieurs projets, mes investisseurs bénéficient de l'effet de levier, ça n'impacte pas leur taux d'endettement et donc du coup, on est sur un cercle assez vertueux.
Alors, l'investisseur acquiert des parts d'un bien que vous avez au préalable donc sélectionné, on l'a vu, mais bien entendu, il ne touche pas de loyer puisque potentiellement, il ne possède pas un appartement ou un local. Il dispose, on va dire, d'un morceau d'appartement ou un morceau de local. De ce fait, qu'est-ce qu'il touche exactement ?
Oui, exactement. Alors, en fait, nos investisseurs, ce qu'ils détiennent, c'est un droit sur les loyers et un droit sur la plus-value. C'est-à-dire que notre société qui porte le bien et reçoit, elle, les loyers, a l'obligation de reverser ses loyers à nos investisseurs, donc avec un pourcentage qui est évidemment défini au départ. Donc, quand nos investisseurs investissent chez nous et achètent des blocs, ils détiennent en fait ce droit sur les loyers et sur la plus-value. Et là où c'est un point très fort du modèle aussi, c'est que ce n'est pas considéré comme des revenus fonciers, avec l'imposition qu'on connaît, mais plutôt comme une sorte de produit financier qui sera, j'anticipe peut-être une question, mais taxé en flat tax. Donc c'est beaucoup plus intéressant et c'est ce qui fait aussi que notre solution aujourd'hui est plébiscitée par des investisseurs assez aguerris qui ont une certaine surface financière et on ne l'avait pas forcément vu venir avec un ticket à 100 euros.
Donc finalement, au moment de la revente du bien immobilier support, que se passe-t-il en cas de plus-value ? Parce que là, on a parlé de l'exploitation, mais un jour, si on souhaite revendre et qu'il y a une plus-value, comment ça se passe ? Est-ce que Blockshare conserve cette plus-value ou bien est-ce qu'elle est redistribuée auprès des investisseurs comme on le ferait pour des dividendes pour une action, par exemple ?
Alors, c'est exactement le même principe que de se dire tous les avantages sans les inconvénients. Lorsque vous investissez vous-même sur un bien immobilier, il y a ce fameux rendement pendant l'opération et cette plus-value espérée. Donc évidemment, on redistribue, nous, dans notre modèle, 90% de la plus-value à nos investisseurs. Les 10% étant pour rester alignés avec eux, parce que nous, on a intérêt à sélectionner des bons projets si on veut une rémunération supplémentaire. Donc ça, c'est le premier point. Et comment, en fait, est traduit cette plus-value ? Donc nous, on va décider d'un horizon de vente au démarrage de l'opération. Par exemple, notre première opération, on a affiché dès le départ qu'on souhaitait revendre la 6e ou 7e année. Mais on se garde une certaine flexibilité puisque si le marché explose avec des taux à la baisse et que le marché repart et que, par exemple, la 4e année, on est déjà en plus-value, à ce moment-là, on se laisse la possibilité de revendre. A contrario, si le marché, on ne peut pas le prédire, est en chute libre la 6e ou 7e année, on a la possibilité de proroger d'une année ou deux pour essayer d'avoir un moment le plus favorable possible pour la sortie et distribuer une plus-value.
Alors, question donc sur la fiscalité, on l'a abordé un petit peu plus tôt. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à part le fait que effectivement c'est pas vraiment un produit immobilier, oui. Donc on est plus sur une fiscalité type flat tax et non pas sur les revenus fonciers qu'on peut connaître habituellement.
Oui, autre avantage pareil qu'on n'avait pas vu venir. Donc effectivement, on est plus dans une logique de produit financier adossé à de l'immobilier. C'est un peu plus comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'effectivement, ça donc on a cette flat tax, mais ça ne rentre pas dans l'IFI. Alors effectivement, ça concerne que très peu d'entre nous. On aimerait tous d'ailleurs être concernés par l'IFI. Mais c'est ce que je vous disais au départ. Dans notre répartition d'investisseurs aujourd'hui, on a ces investisseurs, néo-investisseurs qui investissent entre 100 et 500 euros. Mais avec plus d'une quinzaine de projets financés en 2024, et là sur le début de l'année 2025, on est déjà à une dizaine de projets financés, on a ces investisseurs avec une surface financière assez importante qui s'intéressent à notre modèle puisque ça ne rentre pas dans l'IFI, ça n'est pas fiscalisé comme des revenus fonciers, donc ça génère un intérêt de leur part.
Comment choisissez-vous vos biens? Car c'est parfois, ça peut être un coup de poker. Et si l'investissement ne se passe pas si bien que cela, comment faites-vous pour garantir le rendement annoncé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de capital?
Alors là, on rentre au niveau de la confiance, effectivement, et donc de nous, ce qu'on a fait avant pour être légitime pour sélectionner ces biens. Donc je vous le disais tout à l'heure, moi, ça fait plus d'une douzaine d'années avec mon associé qu'on investit. On a acheté des appartements, des maisons, des immeubles, de la rénovation partielle, lourde, sous différents schémas. Donc c'est vraiment notre cœur de métier que de savoir sélectionner ses biens. Le deuxième point, c'est qu'avec ces 12 ans d'expérience, on a tissé un large réseau de marchands de biens qu'on a sélectionnés, qui sont des professionnels de la rénovation, qu'on est en train d'ailleurs de labelliser. Et c'est ce réseau-là qui nous apporte en fait ces projets immobiliers. Donc nous, ces marchands de biens, on les sélectionne avec un cahier des charges qui est assez strict. Ils doivent avoir plus de 10 ans d'expérience, avoir déjà été financés par une banque, avoir réalisé plus d'une vingtaine d'opérations, etc. Donc ce sont eux qui nous apportent ces opérations pépites. Et le troisième niveau.
Pourquoi ils vous les apportent?
Alors, ils nous les apportent parce qu'on leur offre une vente beaucoup plus rapide que s'ils le vendaient par eux-mêmes. Moi, un marchand de biens, je vais pouvoir lui dire, non seulement je vais te dire qu'est-ce qu'il faut me créer comme type de produit parce que je sais ce que je vais pouvoir vendre, je vais te le vendre beaucoup plus rapidement puisque en 24 heures, il va être financé sur ma plateforme, ce qui a déjà été le cas pour des projets. Et en plus de ça, je vais te commander 5, 10, 15, 20 projets à l'année. Donc pour lui, je solutionne en fait ces deux problématiques, à savoir trouver un acquéreur final pour avoir un financement bancaire et aussi revendre rapidement pour réitérer des opérations. Donc j'ai plutôt une très bonne relation avec les marchands de biens. Et le dernier point pour sécuriser nos investisseurs, et ça c'est une vraie différence, et je suis très fier de pouvoir en parler, c'est que nous co-investissons sur chacun des projets entre 5 et 10% de notre argent personnel, donc avec les associés. Et ça, on y met un point d'honneur. Par exemple, notre dernier projet qui vient d'être financé ce matin, moi, à titre personnel, j'investis 10 000 euros. Je le fais évidemment tant que c'est possible, mais sur chacun des projets, on souhaite garder cette logique de co-investir. C'est un petit peu comme si vous alliez voir votre conseiller en gestion de patrimoine qui vous demandait d'investir, il vous proposait d'investir sur ce support sur lequel lui-même n'a pas investi. Et donc, c'est toujours plus simple d'être aligné avec ses investisseurs que d'investir soi-même sur les projets qu'on propose.
Très bien. Juste un petit mot sur le premier argument que vous indiquiez. En fait, on a bénéficié durant les 12-13 dernières années d'un contexte sur l'immobilier qui était favorable avec des taux ultra bas. Et puis, depuis 2023, disons que tout ça est un petit peu inversé. Donc, c'est là qu'on va voir véritablement notre capacité à bien choisir les biens. Ouais. Ça, vous savez le traiter, le manager en ce moment?
Oui, alors c'est tout l'idée d'aller sur des rendements, d'être très très sélectif quand la conjoncture est assez favorable. Donc on va sur des rendements assez élevés, on parlait entre 5 et 10%. La réalité c'est qu'on ne prend aucun projet en dessous de 6 à 7%. Quel est le risque finalement? Quand on démarre sur une opération d'un bien qui est déjà rénové, déjà loué, on connaît le prix, toutes les composantes du prix, mais on connaît aussi le loyer, etc. Quand l'immobilier est en crise, les loyers n'ont pas forcément tendance à baisser, on le voit actuellement. Et au contraire, quand l'inflation pointe le bout de son nez, l'immobilier est une formidable protection, puisque là, sur les deux dernières années, rien qu'avec l'indice IRL, on a eu deux fois des augmentations autour de 3,5%. Donc nous, déjà sur la première opération, on avait un rendement à 6 qui est passé à 7 quasiment grâce à ce mécanisme d'augmentation de l'IRL qu'il faut évidemment mettre en face des charges puisqu'elle aussi augmente. Donc la meilleure des protections, c'est quelque part d'aller sur des produits qui sont rénovés, déjà loués, et ensuite effectivement le risque c'est plutôt d'aller sur des zones tendues pour être sûr de pouvoir relouer le bien. C'est principalement là où je vois le risque et qu'on essaye de combler au démarrage de l'opération.
Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par François de Nice. Le système que vous proposez et qui est clairement en rupture avec ce que nous avons l'habitude de voir, est-il conforme au cadre réglementaire français ?
Parfaitement, donc c'est une très bonne question, effectivement. Donc nous, on a travaillé avec le cabinet d'avocats spécialistes, donc je ne pense pas qu'on puisse faire de la pub.
Ah non.
voilà, donc, mais c'est le cabinet vraiment spécialiste de ces questions-là. On a évidemment présenté notre modèle à l'AMF, on a été aussi enregistré auprès de l'ACPR en tant qu'agent prestataire de services de paiement, chose qu'on n'est plus aujourd'hui puisqu'on a changé de mécanisme où en fait l'argent transite directement sur nos foncières. Donc on est parfaitement cohérent et parfaitement conforme au cadre réglementaire par rapport à ce modèle-là, tout à fait.
Eh bien merci Adrien Sabi. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes cofondateur du site blockshare.co, le site qui vous aide à vous construire un portefeuille immobilier sans avoir une mise de départ conséquente et cela sans contrainte, vous l'avez bien compris.
Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
Merci Adrien Sabi.
Merci à vous.
Investir malin, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur